Chapitre 4. Le chevalier prisonnier. Cette affaire fit naturellement un bruit énorme dans Paris. Le lendemain, tous les journaux relatèrent le drame du bal de l'Opéra, avec force détails, et firent une relation sensationnelle de cet événement extraordinaire. Le meurtre du comte di Villacerboli était entouré d'un tel mystère, c'était une telle énigme qui se présentait, que l'on pouvait à son aise broder, corser le sujet, en faire un vrai roman passionnel. Tout y était, l'intrigue amoureuse, le déguisement, le poignard, de quoi faire un drame magnifique. Martin Huma vint, comme cela lui arrivait assez souvent, me trouver chez moi dans la matinée. « Mon cher ami, me dit-il, je crois que les lecteurs des journaux ont eu, pour leur mercredi décembre, une lecture dramatique qui peut satisfaire au goût des esprits les plus difficiles, au désir des gens les plus friands de ces sortes d'aventures. Ils sont bien servis. En effet, c'est, comme nous le disons dans le métier, une des plus belles affaires que nous ayons eu à traiter depuis fort longtemps. Mon intervention pour aujourd'hui, pour quelques jours, s'arrête là. Il semble même que l'action de la police ne doive pas aller plus avant. Cependant, cette affaire est loin d'être terminée. Elle commence à peine, en effet. Mais elle commence pour nous, et non pour le public, non pour la police ordinaire, qui, selon toute apparence, ne connaît pas les vrais dessous de ce drame et peut croire que sa tâche s'arrête là. Martin Huma ajouta « Regardez en effet, mon cher ami, ce qui s'est passé. D'après les termes du rapport, bien entendu du commissaire de police qui a fait la première enquête et qui a fourni les renseignements à l'instruction ouverte hier soir, le comte di Villacerboli a été assassiné au bras de sa femme par un homme déguisé en Pierrot Blanc, homme qui se dit Raffaele Fontis. Le chevalier Fontis a été arrêté. Il est sous les verrous et l'action judiciaire n'a plus qu'à suivre son cours. Rien de plus simple, rien de moins compliqué, rien de plus logique que cela. En effet, présentée ainsi, cette affaire est une affaire banale de jalousie, d'amour, d'assassinat, de vengeance. Ce qui seulement lui donne de l'importance, c'est la qualité des acteurs. Les noms du comte di Villacerboli et du chevalier Fontis, de la belle Focamore et en somme, tout l'entourage qui se trouvait là, les Palestrini et autres. C'est une affaire dont le commissaire en question, un brave homme, croit tenir les fils. Il affirme vraiment à qui veut l'entendre être parvenu d'un seul coup à établir ce dossier qui, paraît-il, est une pure merveille de logique, de perspicacité, de rapidité et de savoir-faire. Je dois même ajouter que j'ai entendu dire qu'il s'était écrié dans un moment d'enthousiasme personnel, tout en se faisant à lui-même quelques compliments devant des agents, devant même des personnes pouvant me le redire, car il y avait, vous n'en doutez point, des agents à moi. Ce brave commissaire a dit « Vous voyez, messieurs, qu'il n'est pas toujours nécessaire d'avoir recours à M. Martin Huma, quand un gros événement parisien se présente même de la façon la plus inattendue. Ah, vraiment ?» Cette ironie, je dois vous le dire, m'a fait sourire. Et je me réserve cette petite vengeance de monter plus tard à mon excellent confrère qu'en effet, on peut traiter des affaires sans Martin Huma, mais que Martin Huma peut, dans ses affaires déjà traitées ainsi, montrer qu'il y a bien autre chose que ce qu'on a pu y voir. Je le crois fortement. Sa surprise pourrait commencer tout à l'heure. Comment cela? Le commissaire en question a fait mettre sous les verrous le chevalier Fontis, croyant d'ailleurs avoir quelque peu roulé Martin Huma. Or, Martin Huma va tout bonnement faire mettre en liberté le chevalier Fontis, reconnu par mon cher confrère comme l'assassin du comte di Villacerboli. Le chevalier va être mis en liberté. Il est inutile de laisser longtemps cet homme excellent dans les mains de la justice, alors qu'il est innocent et que les vrais coupables peuvent jouir de toute liberté. C'est très vrai. Cependant, cher ami, personne autre que vous et moi, je ne parle pas bien entendu des magistrats qui ont signé l'élargissement. Personne ne connaît cette mise en liberté. Le chevalier doit même disparaître sous peu, fuir toute recherche. Cela est nécessaire pour la bonne marche de l'affaire. Je comprends. Lorsque j'ai expliqué l'affaire, non pas celle qui avait eu lieu hier, le fait même de l'assassinat, mais quand j'eus fait voir au magistrat les dessous de cette affaire, de la véritable affaire morale qui se cache sous ce simple assassinat, il était naturel, logique, que l'on mit hors de cause le chevalier Fontis, qui de meurtrier devenait presque une victime, Parfait. J'ai démontré au magistrat que ceux que nous appelons nos ennemis, cette fameuse bande des X, sont admirablement organisés, merveilleusement outillés, qu'ils sont disciplinés, forts, audacieux, que j'ai bien du mal à lutter contre eux, et que hier ils ont réussi, malgré moi, à frapper le coup que depuis de longs mois ils cherchaient à donner. Mon cher Martin Huma, je dois vous dire, pour votre satisfaction personnelle, que toutes les mesures ayant été prises par vous, malgré cela, il était impossible, matériellement impossible, d'empêcher le comte di Villa Ciervoli, étant allé de son plein gré se jeter dans la tanière, de recevoir ce coup de poignard en pleine poitrine. Martin Huma inclina la tête et dit « J'aurais pu cependant dû pouvoir le faire. » Puis il reprit « Ayant démontré au magistrat et prouvé moralement, matériellement, l'innocence du chevalier, j'ai obtenu le non-lieu qui va rester secret jusqu'à nouvel ordre. Tout le monde croira que le chevalier Fontis est sous les verrous. C'est une excellente précaution. Et comme l'instruction de cette affaire est des plus délicates, on dira que le chevalier Fontis est tenu au secret et que personne n'est admis auprès de lui. Très bien. Je dois vous dire, mon cher, que ce matin il va y avoir foule à la prison, au dépôt, où le chevalier est encore gardé sur ma demande. Pourquoi cela ? Parce qu'à comédienne, comédien et demi. Parce qu'à canaille, honnête homme et demi. Expliquez-vous, mon cher ami. Je viens de vous dire que le chevalier allait être déclaré mis au secret. Or, le chevalier garde dans sa maison cette exquise et délicieuse jeune femme, Ginetta Maggio. Vous comprenez qu'il serait illogique que cette jeune artiste, si affectueuse et si dévouée, n'allât pas à la prison en apprenant dès ce matin l'arrestation de son bienfaiteur. C'est clair. Si on ne la voyait pas faire le chemin de l'hôtel du chevalier Fontis à la sinistre demeure de la tour pointue, les espions de la bande des X pourraient s'en émouvoir et concevoir quelque inquiétude et même pressentir la vérité. Alors, qu'avez-vous fait ? Alors, j'ai fait garder le chevalier au dépôt, et ce matin, pendant que, très fatigué, vous reposiez encore. Ginetta Maggio, qui, par les journaux, a appris de bonne heure le crime du bal de l'opéra et l'arrestation du chevalier Fontis, Ginetta, en proie à la plus grande douleur, affolée, suivie de ce bon Pietro, est venue à la prison et, pleurante, accablée de douleur, a demandé à voir le chevalier pour le réconforter, pour l'encourager à supporter cette dure épreuve. Martin Huma ajouta « Je dois vous dire, cher ami, que la scène à laquelle d'ailleurs j'assistais fut extrêmement poignante. J'avais obtenu naturellement la permission de laisser communiquer la jeune femme avec le détenu, qui ne connaissait pas encore sa mise en liberté. Dès que la jeune femme aperçut le chevalier, pâle, défait, tout en larmes, elle courut se jeter dans ses bras. « Ami, dit-elle en sanglotant, je vous avais bien dit qu'il arriverait malheur à quelqu'un aujourd'hui, puisque nous avions rencontré la femme au regard noir. La femme qui vous porta toujours malheur, qui faillit vous tuer de chagrin, qui peut-être fut cause de ma longue maladie. Cette femme certainement aujourd'hui a porté malheur à cet homme qu'il aimait, et hélas, vous porte, au surplus, de nouveaux malheurs à vous-même. » Le chevalier tint un moment la jeune femme dans ses bras, l'embrassa tendrement. « Je te remercie, ma chère Ginetta, d'être venue m'apporter un peu d'espoir dans ce moment où toute espérance pouvait m'abandonner. Dans la sombre nuit dans laquelle je marche, tu es comme une étoile qui met sa lueur de joie dans le noir lugubre. Merci, Ginetta. » La jeune femme lui couvrait les mains de baisers. « Sachez, ami, sachez que je ne crois pas, que je ne veux pas croire à votre crime, qu'il est impossible qu'on puisse le croire. J'embrasse vos mains loyales et bonnes, vos mains qui n'ont fait que du bien, vos mains qui ne savent que donner ou caresser, et qu'on veut dire aujourd'hui des mains d'assassin. » Et elle cria, « Non, non, le chevalier Fontis n'est pas un assassin. Le chevalier Fontis n'a pu tuer le comte di Villa Ciervoli. Car le chevalier Fontis ne sait tenir dans ses mains loyales qu'une épée, arme d'honneur, et n'a jamais pu souffrir un poignard, instrument de trahison et outil d'infamie. » Puis, plus caressante, elle disait au chevalier, « Mais vous allez nous revenir, ami. Un peu de courage, un peu de patience. Nous vous attendons. Je reste là pour vous attendre, car je vais vous emmener. Oh, je ne vous quitte pas, je vous garde. Je dirai aux magistrats, aux gens de police, à tous ceux qui vous ont amené ici, qui vous êtes, et qui mieux que moi peut dire qui vous êtes? Quel homme bon, généreux, quel grand cœur est le chevalier Fontis? Je dirai ce que vous avez fait pour moi et pour bien d'autres. Je ferai connaître toutes les infortunes que vous avez soulagées. Combien de faibles vous avez défendus, tous les malheureux que vous avez soutenus. Je crierai à tout le monde votre générosité, votre grandeur, votre bonté. Allons, il est impossible que l'on vous garde en prison. Il est impossible que celui qu'on doit vénérer comme un saint soit arrêté et tenu ici comme un malfaiteur. Il est impossible qu'on puisse croire que celui à qui tant de malheureux doivent la vie soit accusé d'avoir tué son ami le plus cher. Ma chère Ginette, ah, croyez-le, on m'écoutera, on me croira, car on sait que le pauvre oiseau de la rue ne peut dire une chanson fausse. L'on me croira, oui, et l'on vous rendra mon affection, et nous pourrons vous emmener, tout heureux, désireux de vous faire oublier cette heure d'angoisse. À ce moment, on vint de la part du parquet dire que l'entrevue devait finir immédiatement et annoncer que désormais personne ne serait admis auprès du chevalier Fontis qui allait être tenu au secret. Le vieux Pietro s'était jeté à genoux devant son maître et lui disait « Mon bon maître, vous pouvez compter toujours sur le dévouement de votre vieux serviteur et sachez que celui que vous avez regardé comme un père serait heureux de donner pour vous aujourd'hui sa vie. » Le chevalier Fontis releva tendrement son vieux serviteur et lui-même, il le reconduisit avec Ginetta jusqu'à la porte en leur disant « Vous veniez me donner du courage, et c'est moi qui vais vous dire d'en avoir. C'est moi qui vous dis de prendre patience et de croire à la justice française qui saura voir la vérité. À bientôt, ne pleurez pas, et attendez celui dont vous laissez le cœur rayonnant de joie d'avoir vu votre témoignage d'affection, de dévouement et de tendresse. Au revoir. À bientôt. » Il fallut arracher presque, et c'est moi, ajouta Martin Huma, qui fut chargé de ce soin, arracher des bras du chevalier la pauvre Ginetta. Je l'ai emportée presque évanouie, fondant en larmes. Je l'ai mise moi-même en voiture, tandis que deux de mes agents, tenant par les épaules le vieux Pietro, l'aidaient à prendre place à côté de la jeune femme. Mon Prosper monte avec eux en voiture. Il était pour l'occasion un jeune avocat de nos connaissances et de nos amis qui, spontanément, s'était offert par amitié à prendre en main la cause du chevalier Fontis et à mettre le prisonnier au courant des nécessités, des subtilités, des lois du code français, et à lui donner les premiers conseils indispensables en pareil cas. Martin Huma, après un moment, ajouta « Je dois vous dire aussi, mon cher Courville, que la voiture dans laquelle se trouvaient Ginetta et le vieux Pietro et mon Prosper avocat, qui expliquait le code et faisait valoir les probabilités de chance de la cause, affirmait qu'il avait l'oreille du tribunal et s'efforçait de donner à la jeune femme toute confiance et les garanties d'espoir. Cette voiture était suivie par une autre. Ah, encore, comme toujours. Oui, cette voiture qui fila derrière elle à partir du pont au change et dans laquelle se trouvait un homme à moustache brune, un homme à moustache rousse et un troisième lequel, d'après mon brave Prosper, devait être le prince Ramolino. Sur le siège se tenait comme chauffeur un homme qui eût fait tressaillir le cœur d'Octavie, car Prosper, le galant danseur, reconnut en lui, selon toute probabilité, cet Espagnol qui dansait si mal et qui traitait avec tant de désinvolture ses amoureuses. « Ainsi donc, ajoutai-je, ainsi donc toute la bande des X était en branle-bas de combat ?»« Oui, ah, ils ont pris leur revanche, grandement de la nuit tragique. » Par conséquent, ils peuvent croire à leur victoire? Ils y croient. Il faut qu'ils en aient la conviction absolue. J'ai besoin de cela, j'en ai besoin, vous verrez pourquoi. Je demandai alors à Martin Huma, mais dans tout cela, qu'avez-vous fait de la belle Focamore? La belle Focamore est rentrée chez elle avec le corps du comte di Villacerboli et elle se lamente comme savent se lamenter les comédiennes. En Italie, qui joue la tragédie et qui ont même gardé la tradition des pleureuses de la Rome antique. Elle arrache ses voiles, elle remplit l'hôtel de ses lamentations, elle a même des larmes vraies, car l'émotion, l'énervement font jaillir les pleurs des yeux, tout comme la vraie douleur. Cette femme est une comédienne admirable. Génial, mon cher. Elle continue à maudire le chevalier Fontis, qu'elle sait sous les verrous, qu'elle croit ne devoir jamais échapper à la justice française. Elle hurle sa cruauté. Elle offre à qui veut l'entendre, comme preuve de son âme de criminelle, le fait qu'il l'a déjà frappée, elle, à coups de fouet. Elle donne comme motif de meurtre l'amour que le chevalier a toujours ressenti pour elle. Elle déclare que c'est par rage de voir qu'elle lui avait échappé après sa barbarie. Elle dit que c'est par jalousie que le chevalier s'est vengé en tuant ce pauvre comte di Villa Cerboli, cet homme si doux, qui était toute sa vie. C'est le thème adopté depuis le drame. Il est d'ailleurs très plausible, très croyable, très admissible. Le chevalier a en effet été très épris de la Focamore. Il a même ressenti pour elle une forte passion. Croyez-vous au coup de fouet du chevalier? Non seulement j'y crois, mais j'espère même que le fait s'est renouvelé plusieurs fois. Je suis même certain que si tout le monde avait agi avec cette femme, qui est pire qu'un tigre, de la même façon, il avait caressé avec une lanière bien tressée et lui avait cinglé les côtes avec un fouet de charretier, il y aurait peut-être moins de gens morts d'amour pour elle. Plusieurs de ses adorateurs sont donc morts. Plusieurs, oui. Cette femme a réellement la beauté fatale. Cette femme, après le chevalier Fontis, qui n'échappa à ses griffes qu'à grand-peine, qui fut, Ginetta nous l'a dit, longuement malade, et qui dut au bon soin de la science d'un médecin, le bonheur de vivre encore, cette femme, cette terrible femme, chassée à grands coups de fouet, très rudement, de chez le chevalier, et je ne suis pas sûr que ce bon Pietro n'y ait pas ajouté quelques coups de trique, et que ce ne fut qu'à grand-peine qu'on l'empêcha de lui allonger un coup d'escopette sicilienne. La belle Focamore, dis-je, eut quelques aventures. Elle fut aimée par plusieurs autres gentilshommes, d'ailleurs tous très riches. Or, fait singulier, j'ai le nom de quelques-uns d'entre eux qui, au cours de cet amour, ont péri de façon tragique, soudaine, inexplicable, laissant à la belle Focamore à peu près toute leur fortune. C'est odieux. Depuis, elle est tombée chez le comte di Villa Cerboli, qui, éperdu d'amour, n'a jamais voulu croire à ses infamies. Et le comte di Villa Cerboli est mort hier, assassiné par elle. Ayant fait ces jours-ci, sachez-le, mon cher, sortir de l'hôpital un testament en sa faveur. N'oubliez pas cela. Martha Numa ajouta. Mon cher Courville, cette femme est un des types de criminels le plus accompli que j'ai jamais vu. Qu'en avez-vous fait? Oh, je ne pouvais pas faire autre chose que de la laisser aller en paix et lui rendre sa liberté. Pourquoi cela? Il faut qu'elle aussi, se croyant plus forte que nous, agisse en pleine liberté. Il faut qu'elle se livre elle-même. Martha Numa eut un énigmatique sourire, puis allumant une nouvelle cigarette, il s'assit dans mon fauteuil, se renversa en arrière, croisant de son geste familier ses longues jambes l'une sur l'autre, ramenant sur son ventre ses longues mains, les yeux au plafond, suivant les volutes de sa fumée. Il ajouta « Mon cher Courville, je suis dans cette affaire le dindon de la farce. Vous ? C'est moi qui fais rire. Oh, oh oui, allez, je le sens bien. On m'a joué. On m'a trompé. On a fait sous mon nez ce que je tenais tant à empêcher. On m'a berné. On s'est moqué de moi. Je suis battu. Je suis battu sur toute la ligne. » Examinons donc, mon cher, la situation. Dès le début, un crime a été commis chez le banquier Castagnier. Martha Numa fait le malin comme toujours. Fait le malin? Parfaitement. Il a pris une lettre froissée dans la corbeille à papier. Il a ramassé des petits bouts de papier brûlés dans la cheminée. Il a pris une feuille du bloc-notes du banquier sur laquelle se trouvait une empreinte et il s'est écrié « Nous tenons l'assassin qui nous a laissé sa signature. » Car j'ai dit cela, mon cher. Je m'en souviens. Et personne n'a douté que vous ne puissiez mettre vos paroles à exécution. Je continue. Or, après cette belle proclamation, le résultat, néant. L'assassin dont je tenais la main et le pied court encore et se moque de moi, le roi des détectives. Pas pour longtemps. Tous ceux qui s'attendaient à voir le plus habile détective, comme le désignent les journaux, mettre dans les 24 heures la main au collet du criminel, sont déçus dans leurs espérances. Mais pas du tout. On ne m'en garde rancune. J'ai entendu dire que je vole ma réputation. Ce n'est pas possible. Si, si. Je sens que l'on est tout disposé à se mettre avec mes ennemis, à rire de mon système, de mes petits moyens, de mes déductions, de mes rébus, de ma prétendue science, de mon flair. Il y a de voir en tout cela que du battage, du trompe-l'œil et même de la fumisterie. Vous aurez votre revanche. Si tout continue à marcher comme cela, je ne la vois pas venir. Vraiment, je ne savais, en écoutant Martha Numa me faire ses déclarations, s'il parlait sérieusement ou si, en pinçant rire qu'il était, il voulait m'intriguer. Mais Martin Dumas alluma une cigarette et se mit à marcher dans mon cabinet de travail, sans parler davantage, gardant les mains dans les poches de son pantalon et tenait les yeux à terre. Puis, au bout d'un moment de réflexion, il me dit tout à coup « Pour le moment, le plus important, je crois, est d'aller déjeuner. » Nous nous rendîmes donc à notre restaurant, où un petit coin nous était toujours réservé. Après déjeuner, Martin Dumas me dit « Faisons un tour sur les boulevards. Nous irons ensuite faire une visite à Passy. » Peu après, nous roulions vers l'hôtel du chevalier Fontis. « Inutile, mon cher ami, me dit en route Martin Dumas, de vous avertir que nous sommes suivis depuis ce matin, depuis notre sortie de chez vous. Je m'en suis douté. Il faut d'ailleurs que l'on sache où nous allons et bien plus. Il faut presque que l'on voie ce qui se passe maintenant dans la maison du chevalier Fontis. » Nous fûmes reçus par le vieux Pietro, en larmes, qui, en voyant arriver Martin Dumas, se jeta sur ses mains et les serra avec effusion. « Ah, monsieur, vous qui nous avez sauvés déjà une fois, vous qui avez garanti la vie de mon cher maître, faites encore qu'on nous le rende, qu'il nous revienne bientôt, qu'on le mette en liberté et qu'on le débarrasse de cette infamie qui pèse sur lui. » Il nous introduisit dans la bibliothèque du chevalier. Vraiment, pour nous, c'était une visite poignante, car nous avions tellement l'habitude de voir arriver le chevalier peu après notre venue, qu'il nous semblait, par une sensation réflexe, qu'il pouvait apparaître immédiatement, que nous devions le voir et qu'il allait soulever la tenture et entrer dans cette bibliothèque, comme toujours, souriant, la figure ouverte, le regard droit et les mains affectueusement tendues vers nous. La portière se souleva en effet, mais au lieu du chevalier, ce fut Ginetta qui parut. Au lieu du visage souriant de notre ami, ce fut la figure pleine de larmes et douloureuse de la jeune femme qui se montra. Ginetta vint à nous, n'essayant nullement de cacher sa peine. « Ah, messieurs, quel malheur! Nous ne vivons plus ici. La maison est sans âme. Nous sommes plongés dans la désolation. Nous comprenons et partageons votre peine. Comment se peut-il qu'on admette un seul instant que le chevalier Fontis a pu commettre un crime pareil? Comment se fait-il que la vérité n'éclate pas aux yeux de tous et qu'on ne voit pas que celle qui porte malheur, que celle qui tue, se trouvait à côté de celui qui est mort? Croyez que la justice saura. Comment la justice ne met-elle pas sa rude main au cou de cette femme et ne la jette-t-elle pas en prison à la place de celui qui est innocent et incapable même de toute pensée mauvaise? » Martin Dumas doucement dit à Ginetta « Prenez du courage, mademoiselle, ayez confiance. La vérité ne peut manquer de se faire jour bientôt, et le chevalier Fontis certainement verra son heure de vengeance. Nous sommes, depuis notre retour de la prison, où j'ai pu voir mon pauvre ami en prière, ici, car nous sommes restés des croyants en Sicile, et nous invoquons à haute voix celui qui dispense la justice, celui enfin qui tient en sa main la destinée des hommes, celui qui récompense le juste et punit les méchants. » Puis elle demanda « Croyez-vous qu'on puisse me permettre de voir encore aujourd'hui le chevalier Fontis ?» Martin Dumas répondit « Je ne le crois pas. Deux fois dans la même journée, ce sera peut-être difficile, mais demain. » « Demain, dit Martin Dumas, je ne sais. Les visites que vous voulez faire au chevalier échappent à mon pouvoir. Elles sont en dehors de mon ressort. » Anxieuse, elle demanda « Qu'a-t-on voulu dire par ce mot, maître secret, quand on a fait cesser l'entretien ce matin? A-t-on voulu dire que désormais je ne pourrais voir le chevalier, qu'il serait pour ainsi dire rayé du nombre des vivants, que personne ne pourra s'approcher de lui, le consoler, l'encourager, lui faire voir qu'on ne l'oublie pas et qu'on pense à lui ?» Martin Dumas répondit « Je ne sais, mademoiselle, je ne puis rien vous dire de plus que ce que vous avez entendu. » Il l'encouragea encore, lui donna bon espoir, lui promit d'être avec elle le lendemain pour sa visite au chevalier, espérant qu'on permettrait l'entrevue. Puis il ajouta « Il faut cependant apporter en tout cas du linge au chevalier, et je viens vous demander de vouloir bien faire préparer par le vieux Pietro une malle de linge et d'effet, car le chevalier n'a encore sur lui que son habit de soirée, que vous avez vu tout déchiré. Il faut qu'il puisse se revêtir à nouveau, chaudement, convenablement. C'est très vrai, pauvre ami. Voulez-vous, mademoiselle, vous charger de ce soin, de faire préparer une malle que moi je transporterai au dépôt et qui certainement sera la bienvenue? Je vais m'occuper de cela immédiatement, répondit la jeune femme. Elle sortit, s'entendit avec le vieux Pietro, fit bourrer une malle de vêtements et de linge, y mit un nécessaire de toilette, enfin tout ce qui pouvait être utile au chevalier, puis elle revint et dit à Martin Numa « Voilà, tout est prêt. Je crois n'avoir rien oublié de ce qui pourrait être utile à notre pauvre ami. » Et avec inquiétude, elle dit « Mais si vous me faites préparer cette malle, si vous me réclamez tant d'effets, c'est donc que vous savez que le chevalier va rester encore longtemps en prison. » Martin Numa répondit « Je ne sais rien et ne puis rien vous dire. Cependant, comme il faut tout prévoir, il est prudent d'agir ainsi. Afin que notre ami ne manque de rien un seul instant, s'il doit encore rester quelques jours pour permettre à l'action de la justice de se faire définitivement. Tout ce que nous lui apportons lui sera très utile. S'il est mis en liberté dès demain, nous n'aurons que le désagrément de rapporter ici la malle pleine de linge. Je vous comprends, vous avez raison. » Puis elle ajouta doucement, « Je vais vous confier un secret. Pendant que le bon Pietro préparait la malle de son maître, j'ai, moi, fait une longue lettre à mon ami, et je l'ai cachée dans une des poches du costume que certainement il mettra en premier, de sorte que si l'on venait à fouiller dans les effets, j'espère qu'on ne la trouvera pas. Mais lui, il saura l'y découvrir en passant ce costume. Je lui dis, dans cette lettre, tout ce que vous pouvez penser d'affectueux et combien nous comptons sur sa libération prochaine, et qu'enfin, nous sommes tous à prier pour lui. Je lui dis que je vous ai vu, que vous m'avez encouragé, et je lui affirme que vous espérez que l'heure de la revanche sera prochaine. C'est une bonne idée que vous avez eue. Cela lui fera plaisir, je pense, et l'aidera certainement à trouver moins dur les heures de captivité. » Martin Numa répondit, « Je dois, en vous remerciant, vous déclarer ici ce que notre pauvre ami vous aurait dit lui-même, et vous répéter une phrase qu'il vous a répétée devant nous, c'est que vous avez une âme d'artiste, parce que vous avez un cœur exquis. » Peu après, on chargeait sur la voiture de Martin Numa la malle destinée au chevalier Fontis. Tout en montant dans le taxi, sans en avoir l'air, en faisant semblant de donner au chauffeur qui faisait le chargement de la malle quelques indications pour l'arrimage convenable du colis, Martin Numa regardait dans la rue et jetait les yeux sur la fameuse croisée de l'immeuble voisin. Il me dit simplement « ça y est bien, nous pouvons maintenant faire la course. » Nous montâmes en voiture et après avoir dit une dernière fois adieu à Ginetta Maggio, venue jusqu'à la grille et pleurant encore, et au vieux Pietro qui lui aussi pleurait, nous nous mîmes en route. La voiture qui nous avait suivis depuis que nous étions montés nous-mêmes dans un taxi se mit de nouveau à nous suivre. Martin Numa, en soulevant de temps en temps le judas de la capote, s'assurait que cette voiture ne le perdait pas de vue. D'ailleurs, le chauffeur qui nous menait, sans qu'aucun ordre lui ait été donné, sans qu'aucun signe eût été fait, de temps en temps, machinalement, tournait la tête en regardant en arrière et s'assurait lui aussi que l'autre voiture se trouvait toujours dans son sillage. Il avait grand soin, au carrefour ou aux embarras de circulation, de ne pas s'écarter, de ne pas se laisser perdre de vue. Inutile de dire que ce chauffeur, ainsi que le taxi, faisait partie des accessoires et du personnel de Martin Numa. Inutile aussi d'ajouter que nous revînmes sans encombre, et qu'il nous fut facile d'arriver jusqu'au dépôt sans avoir été perdu le moins du monde par la voiture des espions. Le taxi de Martin Numa entra donc, après quelques pourparlers, sous la grande porte cochère du dépôt. Des employés de service vinrent prendre la malle. « C'est pour le chevalier Fontis, » dit Martin Numa à haute voix. « Faites passer tout cela par le greffe. Ce sont des effets pour le séjour du prévenu. » Après quelques formalités d'examen, d'ailleurs très rapidement enlevées, la malle fut montée jusqu'au chevalier. Martin Numa revint prendre place dans son taxi qui remonta dans Paris, gagna la rue Richelieu et me déposa devant le journal. Martin Numa descendit aussi. Nous fîmes quelques pas sur le trottoir. Il me dit, comme ayant l'air de conclure une conversation qui aurait duré tout le long du voyage, « En un mot, mon cher, je ne puis vous révéler autre chose que ceci. C'est que le chevalier sur qui pèsent, vous le savez, les soupçons les plus graves, qui est presque convaincu d'assassinat, va être mis au secret. Afin de permettre plus facilement à la justice d'arriver à voir clair dans cette affaire, qui a une apparence très simple, banale, et d'une complication extrême, c'est tout ce que je peux vous dire. Je ne puis rien ajouter d'autre que cela. » Il me serra la main et remonta vers les boulevards, tandis que derrière lui, deux hommes à moustache noire et à moustache rousse, qui avaient certainement entendu ses dernières paroles, continuait à le suivre dans sa nouvelle course.